Eugene Dundee était venu prendre Kerio au Hilton de Salt Lake City après son colloque et il roulait depuis 2 heures à travers une plaine brune qui coulait au pied des Rocheuses à bord d'un 4x4 Defender couleur sable à la peinture écaillée. Eugene Dundee allait sur ses 65 ans, mais il s'en sortait pas mal, pensa Paul Kerio en observant son ancien collègue à la dérobée. Les manches retroussées de sa chemise bûcheron découvraient des avant-bras musculeux où moutonnaient des poils blancs. Toujours la face longue, les lunettes à double foyer, le nez en lame de couteau. Mais les traits étaient plus énergiques, comme si les années l'avaient libéré de cette timidité inquiète qui l'empêchait d'agir franchement. Son torse s'était développé. Il avait pris des épaules. Était-ce le bénéfice de la vie d'éleveur, loin des paillasses universitaires ? Le Français réalisa que Eugene était probablement en meilleure forme que 35 ans plus tôt, à Berkeley. Lui-même, Paul Kerio, avait davantage accusé le coup. 3 décennies passées, le cul sur une chaise de bureau n'avait pas pardonné. Le corps était taillé dans un bloc de gras blême. Il portait son pantalon au-dessus du nombril. Il savait ce qui l'attendait, comme nombre de mâles blancs imberbes, aux sourcils trop clairs, avec de l'embonpoint. Il finirait par ressembler à une vieille geisha. 6 mois plus tôt, un praticien de l'avenue de Wagram l'avait délesté de 10 000 euros pour lui remonter les joues. Le résultat était acceptable. Il n'était pas transfiguré non plus. « Mildred sera contente de te voir », dit Eugene. La route était rythmée par de grands panneaux publicitaires où dominaient les réclames pour assureurs ou pour avocats. « Injured in a crash, call Ash. Life is short. Get a divorce. » Kerio respirait bruyamment, mâchonnait un chewing-gum mentholé, tapotait le rebord de la fenêtre. Clôturé 2 heures plus tôt, le colloque s'était bien passé, même si cette raclure pédante de Caleb Espinosi l'avait présenté comme un dirigeant de société sans mentionner sa formation de chercheur. Omission perfide, destinée à lui rappeler au besoin qu'il ne faisait plus partie de la famille. Plus tard, Kerio s'était vengé en se levant pour aller pisser pendant l'exposé de l'Américain. Il avait regretté de ne pas porter des chaussures qui couinent, comme les clowns. « Moi aussi, je suis content », mentit le Français. Il n'avait jamais trop aimé se replonger dans le passé. Il avait prévenu ses anciens collègues de sa présence en Utah au dernier moment par email. Au fond, il espérait qu'il ne serait pas disponible. Cependant, il jugea qu'il ne pouvait pas les snober, que les Dundee entendraient parler de sa visite. Le colloque réunissant chercheurs et acteurs du secteur privé autour de l'avenir de la dynamique des systèmes ferait certainement l'objet d'une mention dans les revues spécialisées. Kerio s'était figuré que les Dundee avaient sans doute gardé, malgré leur reconversion dans l'élevage porcin, une forme de lien avec la vie universitaire et scientifique. Voilà, ça s'était machiné ainsi et il n'était plus question de revenir en arrière. Depuis la publication du rapport 21, au début des années 1970, il avait revu le couple une seule fois. C'était en 1993, lors de l'hommage scientifique organisé à l'université de Berkeley après la mort de leur mentor, Daniel W. Stoddart, le fondateur de la dynamique des systèmes. Entre les interventions, les participants s'étaient retrouvés autour d'une table de buffet pour boire un café et échanger leurs souvenirs du vieux Danny. Les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline étaient là, réunis dans le petit patio attenant à la salle de conférence. Petite troupe cosmopolite qui déclinait son jet de cerveau dans un anglais standard. L'ombrageux Fyodor Morinovitch, ancien transfuge de l'URSS qui avait fondé l'un des premiers départements de la discipline. Hans Norton, l'allemand sautillant et couperosé qui l'avait quasiment introduit en Europe. Le New-Yorkais Caleb Espinosi et son éternel t-shirt de vieil ado fatigué qu'il portait comme s'il voulait dire au monde qu'il était Paul Espinosi, si sûr de sa valeur qu'il n'était pas tenu de faire un effort comme les autres. Certains s'étaient déjà croisés aux obsèques 1 an plus tôt. Pour d'autres, comme Kerio, l'hommage scientifique était une session de rattrapage. L'ambiance était bon enfant, mais les Dundee et Kerio s'étaient soigneusement évités. L'ombre de Stoddart était entre eux, ainsi qu'un nœud serré de rancœurs anciennes. Les Dundee, reprochant à Kerio de ne pas les avoir défendus après la publication du rapport, et même d'avoir trahi. Kerio reprochant aux Dundee de l'avoir mis sur la touche, de ne jamais l'avoir cité dans leurs interviews, d'avoir effacé son nom du tableau. Les piques du Français n'avait rien arrangé. Pendant des années, il avait répété que Stoddart n'avait pas eu de véritable héritier. Mildred Dundy s'était, à raison, senti personnellement visé. Le temps avait passé. Ils étaient de vieux chevaux, à présent, et cette brouille était un peu ridicule. Il leur avait écrit qu'il serait ravi de passer un moment avec eux entre anciens collègues. Ils avaient répondu rapidement. Lui avait-il pardonné? Il avait bien pardonné, lui. Puéril, pensa Kerrio en mâchonnant son chewing-gum. Tout cela est puéril. Il était fébrile et le soleil cognait à la verticale sur le Defender. Les yeux fixés sur la route, Eugene parla un peu. Il s'énerva en évoquant une gigantesque ferme porcine située à quelques dizaines de kilomètres qui vendait des bêtes gavées d'antibiotiques aux consommateurs américains. Puis il se tut et demeura silencieux le reste du trajet. On aurait dit qu'il voulait attendre sa femme pour célébrer ses retrouvailles, comme s'il ne pouvait se retrouver vraiment en l'absence de celle qui fut, si ce n'est l'élément le plus brillant, du moins l'âme du rapport 21. Mildred avait pas mal morflé. Elle les attendait devant la ferme, son corps maigre, flottant dans une salopette en jean. Elle portait une casquette délavée. Daffy Duck, le canard facétieux, y subsistait à l'état de vestige. Des rides tombaient en draperie fine au coin de sa bouche et en marchant au-devant d'elle, Kerrio sentit une grande tristesse et une bouffée de sympathie ou de solidarité, l'envie de la serrer dans ses bras en lui disant qu'ils en étaient tous là, qu'ils savaient qu'elle savait qu'ils savaient, que c'était terrible, mais que c'était leur lot commun. Cependant, la voix de Mildred retentit et cette voix était enjouée et tonique.
« Hi, Paul !»
Kerrio comprit qu'elle ne s'était pas vue vieillir, et ce constat arrêta net l'élan du français. Il lui tomba tout de même dans les bras et ils se donnèrent l'accolade, puis ils s'écartèrent pour se jauger de pied en cap, comme de vieux copains. Il eut droit à une courte visite, les lieux consistaient en une belle bâtisse en bois peint et deux hangars en béton coiffés par un toit en tôle ondulée dont l'un servait de remise pour le matériel, l'autre abritait une porcherie nouvelle génération réservée aux naissances et aux premières semaines d'allaitement. Les truies gestantes étaient particulièrement choyées, elles étaient réunies par petits groupes de deux ou trois dans de larges boxes tapissées de paille fraîche. Mildred lui montra une machine. « C'est un distributeur de rations individualisées pour limiter les agressions entre les animaux », précisa l'Américaine.
« Moi, je n'en voulais pas », grogna Eugene.
« On en a déjà parlé », soupira Mildred. À 6 semaines, les porcelets et leur mère rejoignaient leurs congénères, élevés en plein air sur un terrain de 8 hectares. Eugene avait fait l'acquisition de cabanes mobiles qu'il déplaçait périodiquement avec un vieux tracteur de marque John Deere pour varier les zones de pâturage. Les porcs broutaient une luzerne fraîche, régime complété par du fourrage et des céréales sans intrants agricoles.
« Ou autre saloperie », ajouta Eugene, et sa bouche se tordit comme si on le forçait à manger une pleine cuillerée d'engrais.
La mise à mort était effectuée sur place par une société d'abattage mobile.
Un système assez novateur, pas de long trajet en camion, autant de stress en moins pour les bêtes, précisa l'Américain.
Bien sûr, elles sont anesthésiées préalablement, compléta Mildred. Paul Kerrio se souvint alors que le premier article de Mildred, celui qui l'avait fait repérer par Daniel W. Stoddart, traitait de la dynamique de l'industrie du porc aux États-Unis, décrivant avec minutie le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, des parcs d'engraissement jusqu'aux détaillants. Il était émouvant qu'elle finisse par élever ses cochons, qui avaient été son objet d'étude, envisagés comme des unités. Il le fit remarquer à Mildred, qui se contenta de sourire, étonné qu'il se souvienne d'un papier obscur publié dans la revue de Stoddart à la fin des années 1960. Ils dînèrent de travers de porc miellé et de mashed potatoes arrosés de vin californien. « Nous avons nos propres ruches », l'informa Mildred, fière de servir un repas dont seul le vin provenait de l'extérieur. Kerrio nota que son rire se prolongeait parfois au-delà du raisonnable, trahissant un dérèglement nerveux. Peut-être qu'elle s'était vue vieillir, tout compte fait.